Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est le moment de faire un petit positron. J'ai accumulé quelques trucs dont je voudrais vous parler. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une recommandation, mais de deux, puisque vous le savez, cette émission, c'est une émission où je vous donne des recommandations de pop culture, films, ciné, télé, livres, comics, musique, etc. Et aujourd'hui, j'ai une série sur Netflix, hein, comme d'habitude, et un livre. Je suis Patrick Béja et cet épisode sera disponible aux Patriotes du Rendez-vous Tech, les gens qui soutiennent le Rendez-vous Tech un petit peu en avance. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui sur le podcast privé des Patriotes, eh ben, merci de votre soutien, comme toujours. Et si vous m'écoutez sur le flux de Positron, beaucoup d'entre vous le font, c'est un nouvel épisode de Positron, donc yeah, super. Donc, de quoi c'était plein d'enthousiasme cette exclamation. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Donc, d'une série télé et d'un livre. La série télé s'appelle Black Summer et le livre s'appelle Blood, Sweat and Pixels. C'est deux produits qui, je pense, plairont aux gens qui pensent pouvoir être intéressés par le truc, qui sont... c'est pas des trucs que je recommanderais pour tout le monde. Encore que... Le livre, possiblement. Commençons peut-être par la série. Donc, Black Summer, c'est une série qui vient d'arriver sur Netflix le 11 avril. Et c'est une série en 8 épisodes, une série d'apocalypse de zombies. Et là, vous vous dites « Oh, mais non, ça suffit, encore des zombies, on en a marre, machin. Patrick, qu'est-ce que tu nous fais ?» Ok, d'accord. Mais, en fait, elle est pas mal. Alors, évidemment... Il faut aimer les séries de zombies. Je crois que si vous êtes allergique à l'horreur, si vous êtes allergique au stress des situations post-apocalyptiques, évidemment, ça ne va pas être pour vous, vous pouvez passer votre chemin. Par contre, si c'est un truc qui peut vous plaire et pour lequel vous vous dites « Oh, on en a quand même beaucoup eu, j'ai arrêté de regarder The Walking Dead, au bout d'un moment, ça commence à suffire », eh bien, je crois que quand même... Il y a suffisamment de renouveau dans la forme pour que ça puisse vous plaire. En fait, c'est une série qui reste assez classique dans la structure, mais qui ou pas dans la structure, mais dans l'histoire. C'est-à-dire que, tout simplement, il y a eu une apocalypse, on ne sait pas trop comment, pourquoi. On est maintenant dans un monde à quelques semaines du début de l'apocalypse, qui est en train de s'effondrer. On suit des survivants ici et là qui doivent survivre à cette invasion de zombies. Et ça, c'est le truc classique. Mais la manière dont c'est dit, c'est bizarre parce que c'est à la fois, si on le décrit, ça peut être assez attendu, mais en même temps... La mise en forme amène quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a des choix de réalisation qui sont très forts. Et ce n'est pas que c'est des trucs gimmicks, des gadgets, genre, je ne sais pas, il y a des trucs en noir et blanc ou il y a des trucs qui sont montés à l'envers ou ce genre de trucs. C'est que il y a, par exemple, assez peu de dialogue. C'est pas artificiel, bien sûr, quand il y a des survivants qui sont les uns avec les autres, ils vont se parler, mais je pense que par rapport à une série normale, ça parle peu dans la série. Il y a assez peu de zombies aussi, c'est des zombies rapides, la version 28 jours plus tard, donc c'est des zombies qui courent, mais En tout cas, jusqu'à maintenant, il y a assez peu de scènes où il y a beaucoup de zombies. Généralement, c'est un ou deux et qui s'en prennent à un, deux, trois personnes. Et donc, ça amène une ambiance un petit peu différente. C'est pas les survivants contre le monde. C'est vraiment les survivants qui doivent faire face à des situations très concrètes. Genre, je suis monté sur un bus, il y a un zombie en bas, qu'est-ce que je fais ? Et il y a plein d'éléments comme ça, je ne vais pas tout vous spoiler, il y a plein d'éléments où ça rentre en ligne de compte et c'est des situations où on se dit qu'est-ce que je ferais presque dans cette situation ? Alors, il y a évidemment aussi des scènes ou des épisodes où ils sont confrontés à la cruauté des hommes et quand on est dans ce type de d'apocalypse, évidemment, c'est aussi dans les histoires qui sont racontées par ces épisodes. Mais là encore, c'est pas grandiloquent. C'est très, on dit en anglais « muted », ça veut dire « muet », c'est-à-dire que ça ne va pas dans les extrêmes des émotions. Il n'y a pas « ah, oh, mais comment peux-tu faire ça ? Non, mais jamais de la vie, moi je suis l'honneur, l'humanité, le machin ». Il n'y a pas de commentaire sur ce qui se passe. C'est-à-dire que les épisodes vous présentent les situations et généralement, on est laissé, nous, à l'appréciation de ce qu'on voit. Et à juger la situation. Parce que, évidemment, il y a toujours des situations difficiles. Et souvent, dans ce genre de film ou de série, on nous dit ce qu'on doit penser de la situation. Soit parce qu'il y a des gens qui se mettent à pleurer, soit parce qu'il y a des gens qui se mettent à crier, soit parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent en faux sur l'agissement de tel ou tel personnage. Là, c'est beaucoup moins le cas. C'est pas qu'il n'y a pas du tout le cas, et c'est dans ce sens que c'est pas extrême, c'est pas des figures de style un peu artificielles. Il y a quand même des réactions, et c'est normal, mais c'est pas exagéré. Et donc, en tant que spectateur, on est laissé à notre propre jugement. Et ça va jusque dans la présentation graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... La scène, pas la scène, mais le générique d'ouverture, c'est un écran et c'est tout. Il n'y a pas les noms des acteurs, il n'y a pas de musique. Il y a d'ailleurs, dans la série, il y a assez peu de musique. C'est généralement des trucs, quelques tons, un peu graves, un peu stressants, ce genre de choses, mais quelques tons et pas de musique. Donc là encore, ça ne nous indique pas ce qu'on doit penser de ce qui est en train de se passer, au-delà du fait de vous inscrire un petit peu de stress dans les veines, évidemment. Mais c'est là encore quelque chose de... L'intention artistique fonctionne parce qu'on se retrouve face à un produit cru d'une manière qu'on n'a pas vue avant dans ce genre de sujet. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette série et ça nous tient en haleine du début à la fin de la série, qui est assez courte, de la saison en tout cas. Un autre truc que je n'ai pas mentionné, c'est que les épisodes sont divisés en chapitres. Certains sont assez courts, je crois qu'il y en a un qui fait 30 minutes, d'autres qui font 50-55 minutes. Donc, c'est vraiment, chaque épisode fait la durée qu'il doit faire, pas plus, pas moins. Et ils sont divisés en chapitres où on a soit les noms des personnages qu'on va suivre, soit les situations. Et ça aussi, ça nous communique quelque chose sur la situation, parfois de manière assez intelligente. Et c'est une construction qui réussit à rythmer les épisodes sans avoir à faire quelque chose de plus drastique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène qui se termine, on a un écran noir avec le titre du chapitre suivant, et ça rythme, donc ça nous permet de souffler un petit peu, de reprendre notre souffle, et puis d'attendre la suite, sans avoir besoin d'avoir une scène qui nous impose de souffler, en quelque sorte. Même si, évidemment, dans la structure, l'écriture, le script, il y a ces éléments aussi, mais ça aide à faire en sorte que... communiquer cette structure sans avoir à nous l'asséner au-dessus de la tête. Donc, voilà, cette série est vraiment une petite, c'est pas la meilleure série de l'histoire, hein, mais c'est une découverte que j'ai vraiment appréciée. Et même si j'ai pas beaucoup de temps, les trois derniers épisodes, je les ai enchaînés parce que je voulais savoir comment ça allait continuer, comment ça allait se terminer. Et c'est étonnamment bon, en fait, je crois, comme série. Alors, encore une fois, ça va pas plaire aux gens qui aiment pas les histoires de zombies, hein. C'est vraiment classique zombie sur le fond. C'est juste que sur la forme, c'est intéressant. Donc, si la série de zombies, c'est pas pour vous, passez votre chemin. Si vous avez apprécié à un moment la série ou le film de zombies et que vous vous dites « Bon, c'est bon, j'en ai trop bouffé et donc j'ai arrêté, mais je suis quand même peut-être curieux, possiblement, je pourrais être convaincu », eh ben, donnez-lui sa chance. Je pense que vous apprécierez. Donc voilà pour Black Summer, la série qui est disponible sur Netflix. L'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est un double positron aujourd'hui. C'est donc le livre de Jason Schreier, Blood, Sweat and Pixels. Et je pense que certains d'entre vous qui sont des joueurs de jeux vidéo en ont entendu parler, mais si vous n'êtes pas un joueur de jeux vidéo, là encore, ne partez pas tout de suite. Attendez un instant, parce que je pense que je pourrais vous convaincre qu'il est intéressant à lire. C'est un livre qui est divisé, là encore, en plusieurs chapitres, je crois qu'il y en a 8, quelque chose comme ça, qui parle de la manière dont ont été faits 8 jeux différents. Jason Schreier est un journaliste de grande qualité, un journaliste d'investigation qui écrit des articles très longs, qui parle à de nombreux membres de l'industrie sur des sujets dont généralement l'industrie ne veut pas trop parler. Donc il va vraiment aller fouiller là où généralement on ne va pas fouiller. Il écrit pour Kotaku, le site web de jeux vidéo. Et j'ai parlé de ces articles à plusieurs reprises dans mes émissions parce qu'ils sont assez uniques et assez puissants. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de recevoir Schreier dans l'émission anglophone Pixels. Et donc, ce livre est une collection. Il est sorti en 2017, septembre 2017. Donc, les jeux dont il parle sont assez récents encore, relativement récents. Et comme je disais, il a parlé à plein de développeurs des studios des jeux dont il va parler. Et il explique la manière dont s'est passé le développement dans chaque chapitre, pour chaque jeu. Et là où c'est vraiment intéressant, il y a deux choses. D'une part, c'est un livre qui est écrit de manière vraiment grand public. Il explique énormément de concepts, il parle de manière simple. Si vous ne connaissez pas l'univers du jeu vidéo, il n'y a pas à craindre que vous ne compreniez pas ce dont il parle. Il est vraiment écrit pour que vous puissiez le comprendre, même si vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le jeu vidéo. Oui, en français, c'est « Du sang, des larmes et des pixels ». Entre parenthèses, j'ai oublié de le mentionner en français parce que moi, je l'ai lu en anglais. Ou plutôt, je l'ai écouté en anglais. Je l'ai téléchargé en audiobook. J'ai un abonnement Audible qui me donne un livre par mois. Et donc, c'était l'un de mes livres. Et super expérience, super bien lu, avec un petit peu d'emphase peut-être, mais assez bonne expérience. Par contre, il est disponible en audiobook qu'en anglais. Donc, si vous voulez le lire en français, vous serez obligé de le lire avec un vrai livre ou avec un Kindle, avec votre app Kindle, ou bref, en livre électronique. Donc, je disais, il est vraiment accessible. Il a vraiment su comment écrire son livre pour que les gens qui ne connaissent rien aux jeux vidéo puissent l'apprécier. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que le livre en lui-même est une archive, une histoire de la manière dont sont faits les jeux. Et Schreier est vraiment, je pense, assez objectif dans la manière dont il raconte les choses. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des choses qui sont difficiles dans le développement de jeux vidéo, c'est normal, et il met le doigt là-dessus, mais pas que. Quand il y a des gens qui lui disent des choses qui ne servent pas son avis que parce que lui est très pour la syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo aux États-Unis. Et aux États-Unis, comme je le dis dans les émissions de jeux vidéo, c'est un contexte qui est très différent du contexte européen, à vrai dire de tous les contextes en dehors des États-Unis, pour tout un tas de raisons. Mais quand il y a des gens qui lui disent « Non, ici, c'était très cool, ici, ça s'est bien passé », ben, il a aucun problème à le dire. Et il a vraiment une manière de raconter les choses qui est très équilibrée. Donc, c'est vraiment un document, en fait, qui permet aux gens qui aiment les jeux vidéo, ou même ceux qui ne connaissent pas trop l'univers des jeux vidéo, de le découvrir et de le comprendre et de voir l'envers du décor. Et pour moi, c'est vraiment un travail qui est très important, qui est aussi présent dans ses publications qu'il fait sur Kotaku souvent. Et là, c'est une collection de ça, en fait. Et c'est important parce que c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, parce que bah, c'est normal, les studios de développement ne vont pas communiquer sur cette sauce interne, ou quand ils le font, c'est avec des documentaires qui sont sanctionnés, sanctionnés dans le sens qu'ils sont approuvés par les studios eux-mêmes, donc ce n'est pas une vision neutre de la chose. Et là, on a ce regard vrai sur ce processus. Et c'est très important, je crois, pour cette nouvelle forme d'art, d'avoir ça pour les archives et pour l'histoire, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important au sens historique. Et en plus, si vous êtes amateur de jeux vidéo, je crois qu'il y a une valeur inestimable à savoir comment se sont passés les développements avec des histoires parfois assez incroyables sur les difficultés que rencontrent les développeurs, la manière dont ils les surmontent, les relations entre les studios et les éditeurs, parfois l'aide que les uns fournissent aux autres ou les entraves qu'ils vont mettre sur leur route, ou même parfois la manière dont les studios s'entravent eux-mêmes. C'est vraiment quelque chose d'éclairant et qui nous permet de mieux comprendre les jeux vidéo. Et on sait que les joueurs, bien sûr, pas les gens qui écoutent cette émission, parce que vous êtes tous des gens de grande qualité, mais les joueurs ont tendance à beaucoup s'énerver et à être très véhément sur tous les sujets qui ont trait aux jeux vidéo. Peut-être que c'est pas unique aux jeux vidéo, mais en tout cas, on le ressent beaucoup dans ce domaine-là. Et là, on peut au moins comprendre de manière à pouvoir juger ce qui se passe dans l'industrie et peut-être moins s'énerver sans raison, on va dire. Ou au moins comprendre pourquoi il faut s'énerver et pourquoi parfois on s'énerve pas envers les bonnes personnes. Donc c'est vraiment pour comprendre les mécaniques, les rouages de cette industrie et puis tout simplement le plaisir de savoir comment des jeux qu'on a aimés ou qui ont fait beaucoup de bruit ont été faits. Et sur ce point, c'est là encore une ressource d'une valeur inestimable parce que rares sont les enquêtes de ce type. Je sais qu'il y en a d'autres et je sais qu'en France, on a beaucoup de gens qui écrivent sur le jeu vidéo. On a cette chance. Mais là, c'est, je dirais, quelque chose d'assez particulier quand même. Donc voilà, ça s'appelle Blood, Sweat and Pixels ou du sang, des larmes et des pixels. C'est, j'espère avoir... Alors, les gens qui sont amateurs de jeux vidéo, c'est quelque chose que je vous recommanderais à tous. C'est vraiment quelque chose de comme je le disais, presque d'important à avoir lu. Pour les gens qui ne sont pas amateurs de jeux vidéo, j'espère vous avoir convaincu que c'est une lecture qui pourrait vous amener quelque chose aussi. Et j'irai même jusqu'à dire que, étant donné qu'il est divisé en chapitres individuels, vous pourriez presque lire deux ou trois chapitres et ça serait intéressant pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller lire le livre dans son intégralité. C'est pas un livre qui est hyper long en version papier, en version poche entre guillemets, il fait 300 pages, donc c'est pas non plus un pavé de 600. Mais vous pourriez presque en lire 2-3 chapitres, en lire le tiers ou la moitié, et ça vous apporterait quelque chose quand même. Donc voilà, c'est un truc que je recommande Pas complètement à tout le monde, mais quand même presque. Plus que Black Summer, par exemple. Black Summer, je dirais vraiment, si vous pensez que c'est pas pour vous, c'est probablement pas pour vous. Là, le livre, je dirais, il y a quand même une chance que ça soit pour vous, même si vous vous dites que c'est pas le cas. Donc, voilà, c'est Black Summer et Blood, Sweat and Pixels. Et ça va être tout pour cet épisode de Positron. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ah, quand même, je vous rappelle, avant de vous quitter, que je suis NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver, non pas cette émission, cette émission n'est pas sur le site frenchspin.fr, elle est uniquement sur le flux RSS, qui est là, bien sûr, la partie la plus importante. Mais vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu, où je parle de jeux vidéo, bien sûr, et le rendez-vous tech, où je parle d'actualité tech. Le rendez-vous jeu, c'est toutes les deux semaines, et le rendez-vous tech, c'est toutes les semaines. Donc, vous pouvez retrouver ces émissions si vous ne les connaissez pas déjà. Et voilà, bah, c'est tout pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois peut-être, pour le prochain Positron. Merci à vous tous et à très vite. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.